Elles sont des femmes, sénégalaises ou d'origine sénégalaise, aux profils divers et provenant de diverses classes sociales. Pendant une heure, et sur un ton intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celle qu'on leur a assignée à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux. Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Je reçois Koumba Touré, écrivain, conteuse, féministe, activiste des droits humains, entrepreneur social et culturel, coordonnatrice de Africans Rising, initiatrice des géantes invisibles, entremetteuse d'après Ayikwe Arma, connecting people d'après ses proches. Je rencontre Koumba la première fois lors d'un open mic. Dès son entrée dans la salle, les effusions et marques d'affection ont commencé. Devant moi, elle, menue, avec des locks poivre et sel et un grand boubou. Quand elle se décide à monter sur scène pour partager avec nous un texte, la salle entière s'est tue dès que sa voix s'est élevée. Pendant les 10 minutes que sa lecture a duré, aucun son n'a été émis. Et il nous a fallu à tous un moment après qu'elle se soit tue pour que nous redescendions sur terre. Pour moi, au-delà de toutes ces autres illustres casquettes, le pouvoir de Koumba est d'abord celui-là, faire taire toutes les voix quand la sienne s'élève. Bonjour Koumba.
Bonjour, merci. Waouh, quelle belle biographie. J'avais oublié un peu ce moment-là. Et c'est vrai que c'est qui je suis au fond, c'est être conteuse. C'est tenter d'être poète quelquefois. En tout cas, tenter de dire les choses auxquelles je crois de façon à ce que ça touche, ça ouvre des possibilités. Et en t'écoutant, je me dis... Je me demande vraiment si je le fais assez, si je donne assez de temps à cette partie de moi que j'aime beaucoup parce que je m'y sens bien. Et c'est peut-être pour ça que ça touche autant.
Oui.
Alors, merci en tout cas pour ce regard et pour ce reflet en tout cas que tu me donnes. De qui je suis.
Merci à toi. Merci à toi, Koumba, d'être celle que tu es, d'être cette géante invisible. Pour toi, qu'est-ce que cela représente d'être cette géante invisible, d'être cette femme? C'est qui cette femme?
Waouh. Écoute, géante invisible, c'est vrai, c'est pas le titre que je me donne, c'est le titre que je donne à d'autres. C'est un titre que j'ai attrapé depuis très longtemps en observant, en travaillant avec des femmes et sur le continent africain et partout dans le monde, particulièrement quand j'ai été en contact avec les femmes qui étaient dans les mouvements des droits civiques aux États-Unis et de réaliser que derrière les grands noms, des hommes qu'on entend, quand on écoute de près et quand on écoute les histoires de comment les choses se sont passées et qui a organisé, qui a appelé, qui a marché, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de femmes et de grandes femmes, des géantes, mais dont les noms ne sont pas toujours dits. Et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, si ça s'est passé dans le passé comme ça, c'est aussi en train de se passer dans le présent. Et je me suis dit, il y a une possibilité d'éviter ce qui s'est passé avant. Et donc, au moins pour celle de ma génération, ou en tout cas celle que j'ai connue vivante, je ferai en sorte que leur nom, leur histoire, leur contribution ne soit pas quelque chose que les générations à venir doivent vraiment fouiller pour trouver, ou en tout cas des secrets.
Oui.
Et c'est de là que vient ce concept des géantes invisibles, de célébrer de leur vivant des femmes autour de nous, vers qui nous allons quand nous avons besoin, celles qui prennent le soin de s'occuper des autres, de nos communautés, des individus, mais aussi des groupes, et qui très souvent restent dans l'ombre, et même quand elles ne sont pas dans l'ombre, même quand elles sont très visibles. Ce qui reste invisible, c'est la profondeur de leur action, les connexions qu'elles sont arrivées à faire, les soutiens qu'elles ont donnés dans la discrétion la plus totale. Oui. Et ça a été une aventure extraordinaire. À chaque fois que nous les avons célébrées, des gens très proches d'elles, que ce soit des membres de la famille, des collègues, des personnes qui nous disent les connaître énormément, tombent des nues sur les choses qui sont dites sur elles. Et finalement, on réalise que c'est souvent quand seulement quand les gens meurent, quelquefois, à leur funérailles, que certains secrets sortent et que les gens disent « Ah ben, elle m'a aidé à faire ci, elle m'a porté à faire ça, elle m'a inspiré comme ça, elle m'a poussé. » Et donc, quand on le dit maintenant, du vivant, on se rend compte des gens précieux qu'on a autour de nous. Et c'est ça les géantes invisibles. Je suppose que en les regardant, et je suis leur pas. Je tente d'être comme elles. J'ai un conte pour les enfants qui dit que voilà comment l'océan est devenu bleu. Comment elle a eu ses couleurs en regardant le ciel. Et quelque part, ces géantes invisibles sont le ciel pour moi.
Is as important as the killing of white men, mother's sons. We who believe in freedom cannot rest. We who believe in freedom cannot rest.
Cette géante invisible que tu es aussi est le ciel pour bon nombre de femmes. Et aujourd'hui, en mettant en exergue ces autres femmes, tu continues à rester dans l'ombre. Et ce serait bien qu'aujourd'hui, qu'on puisse dire qui tu combats en tant que femme, en tant que géante.
Je suis Kumba, je suis une femme qui vit, qui réfléchit, qui cherche la justice et la joie. Je suis sensible à ce qui se passe autour de moi. J'ai la croyance ou l'audace de penser que je peux changer quelque chose, même si c'est à petite échelle.
Oui.
J'ai aussi l'espérance que les grands, grands changements, les plus grands remous, proviennent aussi des tout petits changements.
Des tout petits changements, des tout petits pas que l'on pose les uns après les autres.
Exactement. Oui. Donc, chaque moment est important. Connexion, chaque joie qu'on peut offrir, chaque éclairage qu'on peut trouver, chaque compréhension qu'on peut donner, contribue pour moi à quelque chose de plus grand. Je suis aussi, oui, j'allais dire, quelqu'un de, voilà, peut-être chanceuse pour avoir rencontré beaucoup de belles personnes. Beaucoup de belles personnes, des hommes comme des femmes, mais voilà.
Oui. Quand as-tu pris conscience du fait qu'il fallait juste faire opérer des petits changements pour arriver, on va dire, à ce grand dessin, à ce grand tout auquel tu aspires, à ce grand bouleversement?
Je ne suis pas sûre hein, comment j'y suis arrivée, mais je sais que j'ai vu très tôt ma mère agir. Elle n'était pas membre d'association, d'organisation, rien d'énorme ou de grand. Mais quand quelqu'un venait et disait « mon enfant n'est pas inscrit à l'école » ou « j'ai tel problème », je la voyais voilà, porter ses sandales et mieux attacher son foulard et sortir et aller avec la personne. Parce que peut-être elle connaissait quelqu'un dans le quartier ou le directeur de l'école ou voilà, quelqu'un qu'elle pensait pourrait faire quelque chose pour changer cette situation-là. Et je l'ai vu souvent marcher bien vite et être presque poursuivi par la personne qu'elle tente d'aider. Et oui, je l'ai vu comme ça. J'ai vu aussi que quand elle marchait dans la rue, voilà, elle salue tout le monde, elle passe trop de temps. En tout cas, à mon avis, de mon avis d'enfant regardant, elle passait trop de temps à saluer, trop de temps à écouter, trop de temps à parler à des gens qu'elle ne connaissait même pas. Et peu importe que ce soit voilà, un charretier qui passe ou un ministre de l'État qui vit dans le coin ou qui passe. Et avec le même ton, léger et avec l'écoute. Et ça, je oui. pense que ça fait partie de ce qui me constitue. Donc, je l'ai pris naturellement. Bien sûr, je n'approuvais pas du tout pendant une certaine période oui. de ma vie. Mais avec le recul, maintenant, je réalise qu'il y a quelque chose de cela qui m'est resté. Et Exactement. Bien sûr, en bougeant et en rencontrant le monde, bah, j'ai réalisé que voilà. C'était bien ça, les petits changements avaient de la valeur.
Oui, chaque changement a de la valeur, effectivement. Les petits changements ont aussi de la valeur. Dans ce parcours qui est le tien, en t'ouvrant, en observant le monde, parce que je reste profondément convaincue qu'on n'écrit pas sans avoir une très bonne qualité, que ce soit d'observation ou d'écoute. Écoute de soi, écoute des autres, observation du monde, observation de l'autre, observation de soi-même, on ne le fait pas. Et dans ce parcours-là, t'est-il arrivé de te dire c'est parce que je suis une femme ou c'est parce que je ne suis pas une femme ou est-ce que tu t'es posé cette question à un certain moment de ta vie?
Bah oui, c'est clair. Hein? Je me suis toujours dit que être femme, en tout cas de ma perspective et du fait que j'étais très attachée à ce sens de la justice et de l'équité, finalement être femme pour moi c'était pas juste. C'était pas juste parce que je regardais autour de moi les femmes, celles qui sont très belles, celles qui sont riches, celles qui sont pauvres, celles qu'on ne considérait pas, et celles qui vivaient autour de moi ou celles que je voyais de loin, dont j'entendais parler. Et il y avait quand même un petit fil conducteur. qui disaient qu'elles sont femmes et que quelque part, elles doivent rester à leur place. Et j'entendais les critiques et c'était toujours contre celles qui essayaient un peu de, voilà, de sortir du cadre, quel que soit le cadre qui était mis pour elles. Et ça, je n'aimais pas du tout alors. Et j'ai fait des choses, même par défi, si je peux le dire. Quand j'étais au lycée, j'ai fait, voilà, le bac C. En ces temps-là, c'était les mathématiques. Et j'entends encore des gens me dire, mais qu'est-ce qu'une fille a à faire dans une filière scientifique, par exemple?
Et c'est à ce moment-là de ta vie que tu t'étais rendu compte que tu étais une fille slash femme? Ou c'est arrivé beaucoup plus tôt? Parce que il m'arrive d'avoir l'impression que nous réalisons ça, nous pouvons recevoir cette information comme étant une claque à un certain moment de sa vie.
Ah, je ne sais pas, je pense que je l'ai eu beaucoup plus tôt. Okay. Je me rappelle avoir été appelée, ou en tout cas avoir été accusée d'être féministe avant de savoir ce que ça signifiait réellement. Mm. Parce que tout simplement, c'était pour moi des réactions très simples où quand on disait des choses basiques, on fait ci, on fait ça, ah non, une fille ne le fait pas. Et je disais, mais pourquoi? Et pourquoi pas? Et que je donnais des réponses totalement logiques. Et gens me regardaient, genre, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les filles soient égales aux garçons ou quoi? Et pour moi, ça allait de soi. Et donc, je leur disais, mais oui, exactement, c'est ça qui doit être. Et je vais dire que des choses basiques, hein, je conduis, moi, je roulais à vélo. Hein, quand j'avais peut-être quoi, 12 ans, 11 ans, j'allais au lycée Blaise Diagne, et je roulais mon petit vélo rouge entre la maison Ouagounia et le lycée Blaise Diagne. Et dans le quartier que je traversais à Bop, il y avait un endroit où c'était sablonneux. Et donc, il y avait une petite partie où je devais descendre et pousser mon vélo jusqu'à retrouver la route. Et je me rappelle de ce petit groupe de garçons qui, voilà, me faisaient une petite haie et chantaient pour moi. « Digen bouida ou al vélo, digen bouida ou al vélo. » Écoute, je les regardais, genre, vous êtes des martiens ou quoi?
Oui. Conduire un vélo,
ça se fait avec quoi? Fille ou garçon, c'est bête, quoi. En tout cas, oui. Pour moi, en ces temps-là. Voilà.
Je comprends parfaitement. C'est quand même intéressant à chaque fois de se rendre compte qu'il y a énormément de choses qu'on nous affecte en fonction du fait que nous soyons filles ou que nous soyons garçons, et que ces affectations-là impactent des fois notre vie, toute notre vie. Et par rapport à notre vie déjà, en termes de représentation personnelle, comment nous nous représentons nous-mêmes, comment nous nous voyons, comment le monde nous regarde. C'est très souvent affecté par ce fait que nous soyons soit une fille ou un garçon. Et du coup, j'ai envie de te demander, dans tout ça, dans tout ce que j'entends là, dans ce côté que nos mamans taxent d'être rebelles ou d'être radicales ou de vouloir faire comme les hommes, quelle est la place qui t'était destinée, Kumba?
La place qui m'était destinée, je dirais que dans la famille, au départ, c'était clair que il y avait des parties de ma vie qui étaient très classiques, hein, parce que quand on est fille et première fille, c'est presque à défaut qu'on devient l'aide de sa mère.
Donc, mère de substitution.
Voilà. Aller au marché très petite et acheter les condiments, venir, voilà, participer dans la maison, faire certaines choses, ça faisait partie un peu de comment j'ai été élevée. Mais en même temps, il y avait aussi ce désir, en tout cas dans ma famille et chez mes parents, de me pousser à aller aussi loin que possible. Donc, il y avait ces deux-là en même temps. Et très vite, j'ai choisi mon camp. Hein. Et je me suis dit, je sais ce que je ne vais pas être. Et je pense que pendant... D'abord, très tôt, j'ai appris à faire la cuisine. Et très vite, dans l'adolescence, j'ai décidé que je ne savais pas cuisiner. Et donc, au prix de faire du sabotage, et que personne n'ait envie de me laisser à côté de sa marmite, hein, au cas où je mettrais trop de sel ou quelque chose comme ça. Donc, ça m'a donné assez d'occasions pour lire, parce que j'adore. J'adore lire. Bah, écoute, on crée des mécanismes de défense.
Exact.
Et ça, je pense que ça m'a suivi très longtemps.
Et comment c'était accueilli, le fait de trop saler le plat ou de mettre trop d'eau?
C'est très mal accueilli. C'est la honte. Qu'est-ce que c'est que cette fille de cet âge qui sait rien faire? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Qu'est-ce qui va lui arriver? Mais voilà, je me suis dit, je préfère ça à passer des heures et des heures à travailler, non seulement gratuit, mais un travail invisible. C'est-à-dire, quand c'est fait, que c'est bien fait, que c'est présenté, c'est comme juste l'air qu'on respire, quoi. C'est là, c'est normal.
Ouais, c'est normal.
Personne ne dit merci. Personne ne réalise la valeur. Et donc, je me suis dit, c'est pas mon truc, ça, vraiment.
C'est pas ce que tu voulais.
Et ça, je pense que j'ai transporté ça au-delà de l'espace familial. Je l'ai transporté dans l'espace professionnel, dans les relations. J'ai appris à voir l'invisible. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, parlons de n'importe quoi, une réunion, un truc qui se passe. Voilà des gens bien importants, guindés dans un hôtel et tout, qui se retrouvent et qui font des réunions importantes. Et je regarde autour de moi et je sais que quelqu'un a balayé et arrangé cette salle, qu'il soit femme ou homme d'ailleurs. Quelqu'un a pris soin de certaines choses pour qu'on puisse arriver là. Et c'est totalement invisible. Et ce n'est pas comptabilisé dans le travail qui est fait. Quelqu'un a mobilisé pour que les gens viennent. Quelqu'un a donné les coups de fil. Quelqu'un a organisé les choses. Oui. Et j'ai appris à donner de la valeur à cela. À ces poteaux qui tiennent très souvent tout ce que nous faisons, mais voilà, qu'on banalise, qu'on ne regarde pas, qu'on paye au minimum possible.
Ce que tu dis, en fait, m'interpelle et me fait penser aussi à quelque chose quand on parle d'un travail qui n'est pas visibilisé ou qui n'est pas valorisé. Très souvent dans le milieu professionnel, on attend aussi des femmes qu'en plus de leur fonction, qu'elles aient ce rôle qu'on appelle un petit peu ce rôle de care qu'elles peuvent avoir, de s'occuper un petit peu de tout le monde, de gérer le gâteau d'anniversaire, de servir de mentor aux plus jeunes, etc., etc. À un moment où son collègue homme n'est pas forcément attendu sur ces questions-là et on trouve complètement normal que ce soit la femme qu'il fasse. Est-ce que ce sont des choses typiquement qui t'interpellent aussi?
Tout à fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, ce qui m'interpelle, c'est l'invisibilité et le fait qu'on n'y accorde pas la valeur. Parce qu'au fond, je sais que c'est important. Aujourd'hui, je sais que préparer, offrir à manger, c'est de la plus haute importance.
Oui.
Faire le lien, s'asseoir à côté de ceux et celles qui ont perdu quelqu'un, prendre le temps avec les malades, s'occuper des enfants. Je sais que c'est extrêmement précieux. Mais ce qui est triste, ou en tout cas pas juste du tout, c'est le fait de le banaliser, de ne pas y accorder la valeur, le temps que les femmes passent à recoudre les relations, même dans les familles. Il n'y a pas, bien sûr, de salaire, mais au-delà de ça, il n'y a pas toujours cette reconnaissance de la valeur de ce que c'est.
Ouais. Pourquoi ça te touche autant? Qu'est-ce qui fait que
ça me touche
autant?
Ça me touche parce que peut-être au bout du compte, je me rends compte que c'est là où se trouve l'essence de la vie. Ça me touche parce que je me rends compte que sans ça, rien d'autre ne tiendrait. Et pour moi, le fait de ne pas y accorder de la valeur, le fait de ne pas le cultiver, nous pousse à les perdre. Et puisque même si ce que tu donnais comme exemple dans le domaine professionnel, si les femmes se rendent compte que bon, finalement, prendre soin des autres, s'occuper du gâteau d'anniversaire, faire les choses le temps que ça prend, c'est pas vraiment considéré. Donc bien sûr, ça vient en dernière position. On y accorde moins de valeur et à juste raison, des femmes qui seraient même un peu plus rebelles diraient, écoute, ça ne m'intéresse pas ces trucs. Moi, je veux avoir ce qu'ils ont, je veux faire comme eux, je veux réussir.
Et je vais essayer d'introduire. Parce qu'il y a aussi cette notion de le perdre, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion de déshumaniser la personne? Parce que quand on ne se rend pas compte de la valeur intrinsèque de ce don, parce que je ne peux pas l'appeler de ces choses, de ce don que fait la femme, que fait la mère, que fait la personne, a-t-on tendance à considérer ces choses comme étant normales et du coup à nier quelque part, et là je vais mettre de gros guillemets, l'humanité derrière cette personne-là qui prend de son temps, de sa ressource, de sa force physique, de sa force mentale pour pouvoir faire en sorte que ces choses que nous pensons normales et naturelles puissent exister?
Je crois oui, c'est au-delà de les perdre. Ce que ça fait, c'est que cette perte est une perte non seulement du don, c'est une perte d'humanité, non seulement pour les femmes, mais pour les hommes. Hein. Mmh. Parce que quelque part, c'est pour nous tous que c'est là.
Oui.
Donc quand on perd, tu sais, déshumaniser, ça ne se fait pas dans un sens. C'est quelque chose qui est un aller-retour. Et dès qu'on néglige et qu'on ne reconnaît pas l'humanité de quelqu'un, c'est sa propre humanité qu'on nie, parce que nos humanités sont liées. On est humain parce qu'on est liés. Et l'humanité des femmes fait l'humanité elle-même. L'humanité elle-même est basée sur l'humanité des femmes. Et c'est pour ça, peut-être, que pour moi, c'est si important de rendre cette humanité visible, de montrer ce don, de montrer non seulement sa force, son importance, son poids, pour que, au lieu d'être ce qui est pris, presque arraché, gratuit, et voilà, jeté n'importe comment, parce que ce qu'on ne valorise pas, on n'en prend pas soin. Que ce soit quelque chose qui, que ce don soit élevé et qu'il soit précieux. Et qu'il soit jugé comme tel. Et quand il l'est, bah, peu importe, hein, qu'on soit homme ou femme, les gens le veulent et veulent y participer et veulent le faire. C'est quand c'est négligé que ça devient une affaire de femme.
Personne n'en veut. Exactement. Personne n'en veut. Exactement. Quand on considère qu'il ne vaut rien, personne n'en veut. Et dans des cas comme ça, ce sont les femmes qui doivent le récupérer.
Exactement.
Dans ta vie aujourd'hui, Kumba, considères-tu que ton don est reconnu? Le don que tu fais, considères-tu qu'il est reconnu?
Oui. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont reconnu et reconnaissent mon don. Et c'est peut-être pour ça que je continue à donner. Ouais, je pense que c'est cela qui m'inspire à continuer à donner.
Merci beaucoup pour cette réponse. Oui, c'est j'avoue, je suis très touchée par ce que tu viens de dire, parce qu'on s'en rend pas forcément compte tout le temps, mais il arrive pour énormément de personnes, qu'il soit important, en tout cas sur un plan individuel, que ce que nous faisons à l'échelle à laquelle nous la faisons, peu importe cette échelle-là, qu'elle soit une petite échelle ou une grande échelle, que en tout cas, que ceux qui reçoivent puissent pouvoir dire à la personne, nous avons vu ce que nous avons reçu. Dire merci, pour moi, c'est une autre étape. Mais reconnaître au moins que nous sommes en train de recevoir, je crois que c'est quelque chose qui est important dans les relations humaines. Et tu dis que c'est peut-être pour cette raison que tu peux aujourd'hui continuer à donner. Aujourd'hui, Kumba, est-ce que c'est la place où tu étais prévu? Est-ce que tu étais prévu à la base dans toute ton éducation, dans ta manière d'être, dans tout ce qui a été inculqué? Est-ce qu'aujourd'hui, si tes parents étaient avec toi dans cet entretien, est-ce qu'ils diraient qu'aujourd'hui tu es à la place où ils auraient rêvé que leur fille soit?
Je ne connais pas peut-être tous les rêves de mes parents. Je connais mes rêves, depuis petite. Je connais aussi les rêves ou les limites de là d'où je viens. Et c'est vrai que aujourd'hui, si je regarde en arrière, rien ne pouvait présager vraiment que je serais cette femme aujourd'hui qui a parcouru le monde, a rencontré des personnes extraordinaires, a eu des occasions, j'allais dire, incroyables, mais surtout à être une personne aujourd'hui connectée. Et quand je dis connectée, c'est pas virtuellement, une personne en lien et avec des liens solides et profonds, avec des êtres humains que j'aurais pu vivre toute ma vie et mourir et ne jamais, jamais, jamais rencontrer. Je veux dire, que ce soit New-Zélande ou Alaska, Inde ou Pérou, si je me lève aujourd'hui et que je décide que c'est là où je devrais vivre, je sais que j'ai des liens, des êtres qui ne questionneront pas mes choix et qui me soutiendront. Et ça, en tout cas, même dans mes rêves les plus fous, étant petite, je n'avais jamais pensé ça. Et oui. Je ne pense pas que mes parents auraient jamais imaginé cela. Oui. Donc, je me dis que de là d'où je viens, voilà, il y a eu un chemin vraiment que j'ai parcouru. Et je rends grâce, tout simplement.
Quel est ce chemin parcouru? D'où viens-tu, Kumba? Quel est ce chemin parcouru?
Ce chemin parcouru, c'est un chemin de, j'allais dire, de rencontre en rencontre. C'est comme un fil de un chapelet, si je peux l'appeler comme ça, de bonnes personnes. Très tôt, j'ai rencontré et travaillé avec des adultes, des gens qui avaient le double, le triple de mon âge, mais qui avaient, je ne sais pas comment l'appeler, la générosité ou la sagesse de m'écouter comme si on était, j'allais dire, égaux, de m'autoriser à essayer des activités, des idées. Ils auraient pu dire non, c'est pas possible, n'y va pas, n'essaie pas, mais non. Et c'est ce chapelet-là, c'est de fil en aiguille que j'ai parcouru ces chemins. Et c'est de rencontre en rencontre. Je suppose que il y a un fil, hein, qui lie aussi des bonnes personnes. Et voilà, j'ai dû attraper le bon bout quelque part. Et je l'ai suivi, je l'ai tenu sur ce chemin.
Et vous avez pas lâché?
Non. Je tiens toujours ce fil.
Oui. Continue à tenir ce fil, Kumba, parce que il arrive dans nos parcours de vie, en tout cas pour ma part, d'avoir envie de tout laisser tomber, parce que tout simplement c'est trop dur. Les obstacles sont trop immenses et que peut-être nous n'avons plus tout simplement la force de continuer. Réussir à tenir ce fil pendant tout ce temps et pendant toutes ces années, je te tire mon chapeau, respect. Respect pour cette partie-là. C'est, en tout cas, c'est pour moi très, très inspirant.
Très inspirant. Tu sais, Zoubida, les obstacles, les difficultés, les peines, les accidents, les tristesses, tout. Voilà, je pense que ça fait partie hein, de la vie. Et quand on tient ce fil, quand on est connecté à d'autres qui cheminent avec nous et qui voient quelque part le même horizon, ça aide. Ça aide à aller au-delà de ces obstacles. Parce que finalement, quand on échange et qu'on en parle, on se rend compte que même les choses qu'on considère les plus extraordinaires, les plus intimes, les plus difficiles qui nous sont arrivées, quand on a l'occasion de les partager avec d'autres comme nous, on réalise finalement que c'est une expérience parmi d'autres.
Oui, qu'il faut la vivre en fait. Je crois tout simplement qu'il faut la vivre. Est-ce qu'il y a eu un combat, un moment dans ta vie où tu as su, et ça a été peut-être clair pour toi, à cet instant, que cette vie-là, par exemple, qu'on est en train de tracer pour toi, que ce soit ta famille, que ce soit la société, etc., que ce ne serait pas ta vie et que du coup, tu ne resterais pas à ta place. Est-ce qu'il y a eu un déclic où ça a été plus un processus?
Ah ouais, pour moi, je pense que ça a été un processus. Hein. Et ça a été un sentiment clair au fond de mon ventre, quelque part. qui me dit pourquoi rester à ma place. Et je pense que je l'ai fait tellement tôt que ce n'était même pas considéré comme quelque chose de réfléchi. C'est presque c'est peut-être reçu par les autres un peu comme de l'impolitesse, de la... Je sais pas, il y a d'autres jugements. Parce que, quelque part, quand c'est trop tôt, on ne nous donne pas le bénéfice de la réflexion. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas assez de cerveau pour réfléchir et savoir que tu ne dois pas être traité comme ça. Donc, si tu te rébelles et que tu dis que voilà, je ferai pas ça ou je. Ça doit être mis dans un autre cadre. Soit c'est de l'impolitesse, c'est de la folie, c'est quelque chose en tout cas d'incompréhensible que quelqu'un d'aussi jeune qui ne connaît rien ou ne comprend rien pourrait se permettre d'avoir des positions aussi radicales hein, par rapport à sa vie. Mais pour moi, c'était juste naturel, ouais. C'est-à-dire, j'ai envie de voyager, je vais voyager. Oui, tu es parent, tu as peur pour moi, c'est ton problème, tu gères ta peur. Moi, exact. Je veux partir.
Et puis, c'est ton rôle, il n'y a pas de souci, mais moi, je pars.
Voilà, mais voilà, c'est cette fille qui n'écoute pas, elle est folle. Donc, mais c'était très, très réfléchi. C'était clair pour moi qu'il y a des risques et que j'étais prête à les prendre, mais que je voulais vivre. Je voulais vivre et apprendre et grandir.
Oui. C'est magnifiquement dit. Nous arrivons un petit peu à la fin. à la fin de cette émission. J'ai passé un super moment avec toi. Et pour finir, j'ai deux dernières questions pour toi, si tu veux bien. On est en 2022. Et si tu avais 20 ans en 2022, qu'aurais-tu aimé que ta version de toi sache là, à 20 ans, pour se préparer à la vie que tu as eue? Ou bien, je ne sais pas, c'est toi qui vois, mais dans tous les cas, qu'aurais-tu aimé que ta version de toi, qui a 20 ans en 2022, sache?
Bon, déjà, je dirais que j'admire celle que j'étais à 20 ans. Moins de peur, moins de limites, moins de filtres, peut-être moins de connaissances, moins de capacités, mais je pense que s'il y avait quelque chose que je pouvais souffler à cette femme que j'étais à 20 ans, c'est « ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, vas-y, fonce, tu es sur le bon chemin ». Continue à défier le monde, continue à apprendre, continue à rencontrer, continue à tenir le fil. Parce que c'est vrai que j'y allais, je faisais des choses, mais je ne savais pas.
Tout à fait.
Peut-être que, voilà, ça n'aurait pas marché. Je ne savais rien, mais j'y allais quand même. La peur, quelquefois, au ventre. Et peut-être si je pouvais lui souffler à ces moments-là, t'inquiète pas, peut-être que j'aurais eu de meilleurs sommeils dans ces temps-là.
C'est certain, c'est vraiment certain, parce qu'il y a quand même de grosses phases de nuit blanche dans cette période de la vie. Et la toute dernière question, Kumba, es-tu à ta place aujourd'hui?
Non, même aujourd'hui, je bouscule. Je bouscule les barrières et très souvent, les gens essaient de me mettre à une certaine place. Et quand je dis ça, je veux dire, maintenant, j'ai un certain âge, j'ai du travail, je suis établie, je suis considérée ou en tout cas respectée par beaucoup. Et donc, du coup, souvent, on essaie de me mettre quelquefois sur un piédestal. Tu arrives, les gens veulent que tu t'assieds ici. Il y a des places réservées, je ne sais pas quoi. Voilà. Et là encore, je ne reste pas. Je ne reste pas à ma place. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Parce que maintenant, je regarde ma vie et je me dis, oh mon Dieu. Je crois que je suis en train de ressembler à ma mère. Parce que je passe maintenant beaucoup de temps à parler à des gens dans la rue, à faire des choses et mes enfants ont honte. Et voilà, je m'assieds par terre. Et voilà quoi. Et je danse, tu vois, au coin de la rue, n'importe comment. Je reste pas à ma place.
Merci beaucoup. Merci pour tes mots, Kumba. Merci infiniment pour ce moment que nous avons passé ensemble.
Merci, Zubida, pour cette invitation.
Ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup, Kumba. Vous écoutiez le podcast Conversation féminine. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Si ce n'est pas encore fait, allez sur Apple Podcasts, abonnez-vous et laissez-nous un avis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle conversation.